talmudique. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes, puisse-t-il ne pas crier vengeance? Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine, je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous. Oui, j'ai été un homme comme les autres, nourri de pain, de rêves, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert, j'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne, pêcher sous l'œil de Dieu, des poissons irréels, je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites le soir. Après, je rentrais me coucher, fatigué, le cœur là est plein de solitude, plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme, cherchant en vain, sur un ventre de femme, cette paix impossible que nous avions perdue naguère, dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. Et pourtant non. Je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation, accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oublie-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie, un visage d'homme, tout simplement. Margaret Boulle et Serge Nicolas, bonjour. Benjamin Fondane, c'est le grand poète que nous avons rencontré la semaine dernière et dont je viens de lire un extrait de l'un de ses poèmes les plus connus et les plus poignants. Benjamin Fondane ne fut pas seulement poète, il fut tout autant philosophe et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et que nous allons avoir le plaisir d'approfondir avec vous. Fondane, qui aima toujours innover dans la pensée et les arts, choisit toujours aussi de s'inscrire dans une filiation. Nous avons évoqué Yaakov Gropper pour la poésie, pour la philosophie, ce fut Léon Chestov et aussi Lucien Lévy-Brulle, à qui Fondane consacra plusieurs articles. Ces articles sont réunis aujourd'hui en un seul ouvrage qui vient de paraître aux éditions de l'Éclat, intitulé « Lévy-Brulle ou le métaphysicien malgré lui », texte établi et présenté par Serge Nicolas et Dominique Gage. Quelle est l'origine de ce livre posthume qui paraît 75 ans après la mort de l'auteur? Et dans votre introduction, Serge Nicolas, vous évoquez la lettre que Fondane écrivit depuis le camp de Drancy avant son départ pour Auschwitz, dont il ne reviendra pas. Serge Nicolas.
Oui, dans cette lettre que Fondane réussit à faire parvenir à sa femme juste avant sa déportation, il lui demande il donne des instructions très précises sur la manière dont sont éditées ses œuvres, les dernières versions existantes, etc. Et en particulier pour la philosophie, il dit qu'il veut faire en un seul volume un livre sur ses trois auteurs préférés à savoir Chestov, Lévi-Brull, Lupasco, qui s'appellerait l'être et la connaissance. Donc on revient sur le thème, un rapport entre l'être et la connaissance, et donc qui reprendrait des études qu'il a consacrées à ces trois auteurs, qu'il a beaucoup remanié pendant la guerre. La guerre est un moment où il travaille énormément, il sort très peu de chez lui pour des raisons évidemment évidentes, et donc il retravaille, il a donc publié des articles sur Lévi-Brull qui sont parus dans la Revue philosophique en 1940. Dès qu'il revient de captivité, il les reprend, il les retravaille, il les grossit, etc. Bon, Fondane, c'est toujours un travail sans fin sur les manuscrits, et ces manuscrits sont restés inédits. Il n'a pas pu terminer ce projet de livre. Il a repris aussi les articles qu'il avait écrits sur Chestov, et donc ce projet est resté en l'état. Et donc, voilà, ce manuscrit enfin paru 75 ans après avoir été écrit.
Alors, avant de commencer ce rapport entre Fondane et Lévi-Brull, Marguerite Boulle, je vous voyais très attentive à la lecture du poème de cette ouverture, en dehors de l'émotion. Qu'est-ce que ça représente dans l'œuvre de Fondane?
Il participe à la campagne de France, et donc sa poésie en est empreinte. L'exode, c'est aussi l'exode que tous les Français connaissent en 1940. Et donc, il est blessé, il passe quelque temps au Val-de-Grâce, puis il est libéré, revient chez lui, vit terré dans son appartement, rue Rollin. Et donc, il traverse cette période en travaillant. Qu'il réécrit sa poésie, il écrit Baudelaire et l'expérience du gouffre, qui est sans doute son plus grand livre. Et donc, il travaille également, comme Serge Nicolas l'a dit, sur Fondane, sur Lupasco et sur Lévi-Brull. Alors, il faut peut-être rappeler donc les circonstances dans lesquelles...
Il a été donc arrêté, dénoncé par ses concierges pour une raison absolument anodine, et il est arrêté quand même très tard.
Il est arrêté en mars 44.
Il est déporté dans l'avant-dernier convoi qui part de
Drancy. 75. Alors pour commencer, il est important de resituer rapidement la personne de Lévi-Brull, né en 1857 et mort en 1939. C'est un philosophe, mais aussi un ethnologue et un sociologue.
Voilà. Donc c'est avant tout un philosophe et un historien de la philosophie qui fait une carrière extrêmement classique. Il entre à l'école normale supérieure, il devient ami avec Bergson et Jaurès, puis très vite il devient professeur en 1902 à la Sorbonne. Il est aussi assez typique finalement de la promotion des intellectuels juifs sous la Troisième République. Mais il y a une bifurcation dans sa carrière. Il commence à s'intéresser à la sociologie. Il est aussi lié avec Durkheim. Et il fait paraître en 1903 un livre sur la morale. Et puis, à partir de 1910... il décide de s'intéresser à la pensée des primitifs. En fait, après son livre visant à montrer qu'il y avait différents types de morale, qu'il n'y avait pas une morale unique, il avait l'idée de faire un petit peu la même chose pour la pensée. Il a dit aussi qu'il aurait aimé s'intéresser à la pensée chinoise, mais qu'à 53 ans, il se trouvait un peu vieux pour se mettre à fond le chinois. Et donc, il commence donc un peu tardivement une série de livres ethnologiques, une série de 6 livres, qui veut, et donc c'est un problème, la pensée des primitifs qui va le poursuivre jusqu'à sa mort, puisque il y travaillait encore, et les carnets qui paraîtront après sa mort sont révélateurs, en fait, de la manière dont il remet sans arrêt en question ses analyses, etc., revient sur les mêmes problèmes.
Alors, dans la conférence d'Oxford, que donna Lévi-Brull en 31, donc c'est déjà bien après la publication de ses ouvrages, il emprunte à Smith et Dahl un récit sur les barres Ila de Rhodésie du Nord. Je voudrais qu'on l'écoute parce que c'est caractéristique. Quelque temps après la mort du vieux chef Sezongo, nous visitâmes son tombeau et nous vîmes des gens qui balayaient la hutte où il était enterré. Il y avait une tortue dans la hutte et on nous informa que c'était ses ongots. Les gens avaient gratté un peu de terre de la tombe et mis à découvert un tesson qu'ils déplacèrent, faisant apparaître l'orifice d'un roseau. C'est par ce roseau, disait-il, que la tortue était venue. Leur pensée, en réalité, était que des vers avaient monté le long du roseau et s'étaient changés en tortues. Nous apprîmes dans la suite que deux lionceaux avaient apparu dans la hutte et on accepta comme un fait que ces ongots étaient devenus deux lions. Un an plus tard environ, une troupe de lions, au nombre de 10 ou 12, se montra une nuit et fit trembler la terre de ses rugissements. Elle fit une forte impression sur les gens. Ils dirent que ces lions étaient venus de loin saluer les deux lions qui étaient ces ongots. Quelque temps après, le fils de ces ongots eut lui-même un fils et on eut la preuve que l'enfant était le vieux chef revenu sur la terre. La question se pose alors à l'Européen. Elle ne vient pas à l'esprit de l'indigène. Où est ce zongo? Dans le tombeau où on lui rend un culte aujourd'hui? Dans la tortue? Dans les lions? Ou dans le gamin qui court par le village? Il semble qu'il y ait chez les indigènes une curieuse confusion de pensées. Serge Nicolas, comment vous interprétez ce texte sur ces ongos?
Oui, ce qu'explique Lévi-Brulle, c'est justement ces ongos. On n'y comprend rien parce qu'on essaie de l'imposer notre géologique. C'est-à-dire que pour eux, il y a une logique de la pensée primitive, mais dans lequel le fait qu'il y ait une coprésence ne pose aucun problème.
Coprésence du mort et du vivant, voilà, de etc. l'animal et de l'humain, voilà. Une forme
et donc
de
ces ongos, oui. Est à la fois le lionceau, l'homme qui est dans la tombe et le fils, enfin le petit-fils, quoi.
Et c'est ce que Lévi-Brulle a appelé dans cette coprésence, qu'il a appelé une participation, une expérience autre, différente de notre connaissance logique. Qu'est-ce que Benjamin Fondane a trouvé dans cette philosophie de Lévi-Brulle qui l'a attiré? En quoi il y fut particulièrement sensible?
Alors je crois qu'il trouve d'abord un moyen d'approfondir sa critique de la connaissance rationnelle. C'est-à-dire qu'il tient de chez Stoff une critique assez radicale de la connaissance. Alors on sait que c'est fondé en particulier sur une exégèse du péché originel. C'est-à-dire que il interprète comme « tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez » comme « interdit de la connaissance ». La connaissance mène à la mort. Et donc chez Stoff oppose en gros l'arbre de la connaissance à l'arbre de la vie. En gros, vous choisissez la vie ou vous choisissez la connaissance. Et là, finalement, il y découvre quelque chose de plus précis. Les primitifs ne sont pas du tout sensibles aux choses auxquelles sont sensibles, c'est-à-dire en particulier à la logique. Ils n'ont pas les mêmes cadres pensés que nous, ce que Kant présente comme les cadres formels nécessaires à la connaissance, à savoir la conception du temps et de l'espace. Ils n'ont pas du tout. Et donc Fondane en déduit que ce sont des esprits libres. C'est-à-dire que pour lui, ces cadres logiques, etc., ce sont des espèces de carcans. Fondane va parler du réel canonisé, du réel éternel, immuable. C'est-à-dire que le réel, au lieu, c'est quelque chose qui s'interpose entre nous et le monde sensible, entre la réalité auquel on est confronté. Et donc, toutes nos explications rationnelles, toutes les connaissances qu'on a, viennent s'interposer. Et donc là, il découvre des gens, en fait, qui n'ont pas ces cadres. Dans l'article que vous citez, Lévi-Brulle dit, ce qui préoccupe le primitif, c'est ce qui va arriver maintenant. C'est-à-dire, pour lui, il y a une ouverture du primitif à ce qui peut arriver. Et alors, il y a aussi un autre terme un autre point qui intéresse beaucoup Fondane, c'est la nature de l'expérience du primitif, que Lévi-Brulle décrit justement comme à la fois pratique et métaphysique, c'est-à-dire mystique. Mystique étant simplement le fait d'être sensible à l'existence du surnaturel, quoi, des forces invisibles qui interviennent. Et donc pour Fondane, ça c'est très important. Et donc Lévi-Brulle explique que le primitif, évidemment, a une expérience d'un certain côté beaucoup plus pauvre que la nôtre, parce que il n'a pas les explications sur le monde que nous avons, mais en fait beaucoup plus riche, parce que il est prêt à accueillir tout ce qui arrive, l'inattendu, rien ne le surprend, Enfin, il y retrouve donc la devise de Kierkegaard, « À Dieu, tout est possible ». Le miracle ne lui fait pas peur.
Et Fondane va retrouver dans sa propre poésie ou dans l'expérience poétique cette dimension de l'inattendu, de l'expérience sensible, non canonisée, comme vous venez de dire, par nos catégories philosophiques, Margaret Boulle.
Oui, finalement, il s'approprie la notion de participation et il fait de la poésie une expérience de participation. Et donc, ce qui importe dans cette expérience, ce n'est pas l'écriture, mais c'est justement de retrouver le rapport au monde. Et donc, c'est un moment exceptionnel qu'ensuite le poète doit retrouver, retravailler.
Et est-ce que on peut dire que chez Lévi-Brulle et dans l'interprétation qu'en donne Fondane, il existe deux rationalités différentes qui ne s'excluent pas nécessairement, mais se compléteraient un peu à la manière de la logique primaire et secondaire chez Freud, ce qui permettrait d'ailleurs aussi en passant d'entendre le terme de primitif de façon nouvelle. Primitif comme les processus primaires que sont ceux de l'inconscient dans le rêve chez Freud, Serge Nicolas.
Ben, Lévi-Brulle a beaucoup hésité en fait sur le rapport entre les deux logiques. Il a un peu évolué. Il a fini par dire effectivement qu'ils étaient toutes les deux présentes et que l'homme civilisé, chez l'homme civilisé, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que il fait des descriptions, on peut penser effectivement que petit à petit la rationalité l'emporte dans un espèce d'évolutionnisme, mais pas du tout. Finit par dire, mais non, pas du tout, ça va pas disparaître, parce que ça répond à des besoins bien plus importants que ceux de la connaissance rationnelle. Alors, mais Fondane insiste plutôt que sur une coexistence pas du tout pacifique. En ce sens qu'il reprend des expressions de Lévi-Brulle qui sont en effet extrêmement frappantes, où celui-ci insiste sur une certaine dissymétrie. C'est-à-dire que la pensée des primitifs n'est pas gênée par la logique, puisqu'elle se fiche de la logique. Mais, réciproquement, la logique, elle, tend à imposer un moule. C'est-à-dire que, dans la pensée de l'homme civilisé, tout ce qui n'est pas la pensée rationnelle est rejeté comme apparence, comme rien, comme néant. Et donc, il y a une certaine dissymétrie. Et Fondane, effectivement, est frappé par les expressions de Lévi-Brulle, où il dit que la pensée rationnelle ne tolère pas ceci, ne tolère pas cela, exige. Et donc, finalement, Fondane finit par faire de la pensée non rationnelle une espèce de pensée minoritaire qui doit lutter pour sa survie, quoi, face à la pensée rationnelle qui essaye de l'étrangler.
La question était, est-ce que ça rejoint la place de l'inconscient chez Freud ? Cette pensée rationnelle.
C'est-à-dire que, Fondane a été intéressé par la pensée de Freud et il pense effectivement que la découverte de l'inconscient, c'est un domaine, etc., très, très important, mais que Freud, justement, a trop cherché à la rationaliser.
Charlie Chaplin, The Kid, Ça peut paraître surprenant dans notre conversation. Fondane fut aussi passionné de cinéma et cinéaste lui-même. Il aimait particulièrement Chaplin, dont nous sommes en train d'entendre un extrait de la musique du film The Kid. Que représentait le cinéma pour Fondane? Quel lien fit-il avec la poésie et ses recherches de philosophie et sa critique de la rationalité qu'il trouve chez Lévi-Brull, Marguerite Boulle?
Oui, donc Fondane a effectivement cru à la puissance du cinéma, comme ses contemporains, comme les surréalistes, et il y a vu aussi une autre manière d'échapper au déterminisme, et un moyen d'expression échappant à la fois au langage et à la rationalité. Et donc, ces beaux textes sur les cinémas, réunis également chez Verdier, donc nous donnent aussi un Fondane plus vivant, avant que Chestov, en quelque sorte, ne capte toute sa créativité. Et il est à la recherche d'une grande fluidité dans la création. Et donc, il y a des correspondances avec le texte sur Brancusi. Donc, c'est vraiment un vivier formidable que ces textes.
C'est-à-dire que le cinéma, il dit que le cinéma n'est le cinéma muet, parce que, bon, il a déploré finalement le passage au parlant. Le cinéma muet, c'était pas, le fait d'être muet n'est pas une carence, c'est au contraire une force. C'est-à-dire que ça vous permet d'échapper aux explications logiques des comportements et d'emblée de se placer dans une autre dimension. Et alors que bon, Chaplin, il a une admiration particulière de Chaplin qu'il décrit comme un génie, comme le grand tragique de notre temps, le mime, le frugal, le gueux, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin d'ailleurs qui intervient aussi dans sa poésie dans une des séquences de d'Ulysse après avoir raconté une expérience dans son enfance où l'accompagnait des émigrants. Au Havre avec son père, intervient Charlot pour nous faire la liaison avec le présent. Plus tard, j'ai vu Charlot et j'ai compris les émigrants. Plus tard, moi-même. Émigrant, diamant de la terre, sel sauvage, je suis de votre race. J'emporte comme vous ma vie dans ma valise, je mange comme vous le pain de mon angoisse. Et cette série de phrases se termine par « Je ne saurais jamais me résigner ».
Magnifique. Alors nous touchons, écrit Benjamin Fondane, au terme du voyage, quand la compagnie de Monsieur Lévi-Brull nous avons fait dans le pays des fonctions mentales des primitifs, les primitifs ne pensent pas comme nous, nous ne pensons pas comme les autres, et souvent nous ne pensons pas aujourd'hui comme nous pensions hier. N'est-ce pas le moment de prendre conscience de l'inutile effort que nous faisons pour mettre au clair une théorie de la connaissance et d'ouvrir enfin toute large les portes de la métaphysique de la connaissance? Ces phrases tirées du chapitre de conclusion du livre de Fondane intitulé « Lévi-Brull ou le métaphysicien malgré lui » opposent une théorie de la connaissance à une métaphysique de la connaissance. Qu'est-ce que précisément cette distinction, on l'a bien compris en fait dans ce que vous avez dit précédemment, mais qu'est-ce que signifie ce métaphysicien malgré lui, en dehors du clin d'œil à Molière, Serge Nicolas?
Bien, Fondane pense que effectivement, Lévi-Brull n'a pas fait seulement œuvre d'ethnologue, d'anthropologue, comme il a dit, mais effectivement, qu'en montrant qu'il y a une autre connaissance possible que la connaissance rationnelle, qui est cette connaissance plus vraie qu'il voit chez les primitifs, a fait œuvre de métaphysicien en ce sens qui pose des questions fondamentales, ontologiques, qui remettent en cause la connaissance comme la chose centrale dans notre rapport à la vie. Et donc, c'est un métaphysicien, donc Lévi-Brull refuse un peu cette interprétation, et donc le métaphysicien malgré lui.
Alors Benjamin Fondane commente Lévi-Brull, mais il en fait aussi la critique. Rejoint-elle cette critique, celle que fera plus tard Lévi-Strauss dans son Anthropologie structurale et en particulier dans La pensée sauvage, écrite en 62? On peut dire qu'il a écrit contre la mentalité primitive de Lévi-Brull. Que reprochait Lévi-Strauss à Lévi-Brull?
Lévi Brull pense que la notion de pensée primitive est complètement dépassée, n'a pas de sens. Lévi-Strauss, excusez-moi. Oui. Pense que fondamentalement c'est une question qui n'a pas de sens. Il refuse un peu le type de questionnement, c'est-à-dire cette vision d'une pensée autre. Donc, il refuse le type de questionnement. Il pose d'autres questions, quoi. Et donc prétend rebâtir l'ethnologie sur d'autres bases. Donc, c'est la pensée de Lévi-Strauss est basée sur l'oubli de celle de Lévi-Brull. Donc, au contraire, il irait justement dans une voie vraiment totalement opposée à celle de Fondane, qui lui accentue plutôt l'aspect métaphysique de la philosophie de Lévi-Brull.
Alors pour terminer cette seconde émission, j'aimerais articuler les différentes questions que nous avons évoquées la semaine dernière avec le texte biblique. En effet, Margaret Boulle, Serge Nicolas, vous avez écrit tous les deux un texte sur la Bible et Fondane, et vous, Serge Nicolas, particulièrement un article intitulé « Les primitifs et la Bible ». Quel lien faites-vous entre les deux ?
C'est Fondane qui fait le lien. C'est-à-dire qu'il dit assez étrangement dans le livre sur Lévi-Brull, Lévi-Brull aurait pu tenter de faire d'un rapprochement, par exemple, avec la Bible, mais il ne l'a pas fait, mais il a peut-être raison, parce que finalement, on a plus de chances de comprendre la Bible à partir des primitifs que le contraire. C'est-à-dire qu'on revient sur la critique, la critique quand même très violente des Juifs de son époque, qui ont trahi leur vocation métaphysique, et donc, pour s'y retrouver, il faudrait peut-être étudier les primitifs. Alors, qu'est-ce qu'ils découvrent des primitifs ? Des gens qui n'ont pas peur du miracle, qui sont ouverts au surnaturel, etc. Alors il dit bien que, évidemment, le contenu n'est pas le même. Donc c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé ? Une certaine démarche. Il finit, il dit, comme les peuples de la Bible, ils sont ouverts à la révélation. Et voilà. Et c'est ça qu'il reproche aux Juifs de son époque, c'est de ne pas être ouvert à la révélation. Et donc, il retrouve une attitude d'ouverture, d'accueil à la prophétie, en quelque sorte, qui semble très loin de son époque.
Sei ruhig, meine Kind. Alleluia, wiegt der Wind um mich ein. Ich werde dein, Mariko, sein. Alleluia, wiegt dein, wird der Wind. Sei ruhig, mein Kind. Allelu, wiegt der Wind um mich ein. Ich werde dein, Mariko, sein.
Mais un soir viendra où je partirai d'ici, sans savoir très bien où je vais, ni même si m'attend la mort putride ou la semence d'une autre vie. Le silence comme un tertre m'ensevelira, je sais. Tu viendras le soir comme d'habitude. Tu porteras sur les épaules l'ombre fraîche des feuilles de noyer. Tu comprendras aussitôt que je suis parti, à l'immobilité restée à mon chevet, comme le premier cierge. Tu ne demanderas à personne pourquoi te pèsent tes genoux mûrs, tes boucles d'oreilles et ta belle âme. Tais-toi, pour de nouveaux paysages on exige d'autres mots. Écoute plutôt en toi des souvenirs le sourd tumulte. Pourtant, ce cri éclate, je t'aime. Et j'aimerais une pierre au caractère hébraïque. L'automne, dans le cimetière aux portes de la ville, dépose la tristesse de son miel sur les dalles des ruches. Et dans les regards, les vrilles de la ronde terre. Et je ne peux fuir la mort plus loin.
Merci Margaret Teboul, merci Serge Nicolas pour ce beau voyage dans l'œuvre de Fondane et de Lévi Brull. Les deux ouvrages qui nous ont accompagnés cette semaine et la semaine dernière sont Benjamin Fondane, Lévi Brull ou le métaphysicien malgré lui, texte établi et présenté par vous Serge Nicolas et Dominique Gage, et Benjamin Fondane, Devant l'histoire, texte réuni et présenté par Monique Jutrin. Je voudrais aussi citer de Benjamin Fondane, poème d'autrefois traduit du roumain par Odile Serre aux éditions Le Temps qu'il fait. Merci encore. C'était absolument passionnant. C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la prise de son, Olivier Dupré, à la réalisation, comme toujours, Dany Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique, Coltouvre, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.